Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Hey Molly, it's me, I'm in Nashville, I'm on my way to Dollywood.
It's Taylor Swift.
My brother played banjo, my mother played banjo, and then had another brother who played guitar, and finally, I used to play banjo.
Ooh, as a cattle he was trailing, you would always hear him wailing.
I love him in the morning, I love him late at night.
I never eat fried chicken when potatoes are inside.
C'est ainsi que progressivement on va se créer ce qu'on appellera à partir des années 50 le Nashville Sound, c'est-à-dire cette espèce de son sophistiqué, urbain, bien sûr avec un terreau rural, country, mais immanquablement pop.
He said the way my blue eyes shined, put those Georgia stars to shame that night, I said that's a lie.
I love strong women telling stories, and I think in country music, especially at that time, that's where you, if you want to look for like super strong women telling really amazing stories, you went to country.
I didn't want to leave you, but had to. I didn't want to fight, but we did. Started to cry, then remembered I just won my first Grammy.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
Bonjour à tous et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les styles, de tous les genres, de toutes les analyses. Une heure de radio sur la musique, en musique. C'est la série musicale, bienvenue. Vous écoutez Chet Atkins, l'un des meilleurs guitaristes, créateur du picking country dans le jardin de la famille Carter. Mais nous parlons aujourd'hui de deux femmes qui s'appellent Taylor Swift et Miley Cyrus. La première, Taylor, est devenue si puissante qu'aujourd'hui elle est capable de tenir tête à l'industrie de la musique, voire même de fonctionner sans elle. Elle a récemment réenregistré l'intégralité de sa déjà très longue discographie pour disposer des pouvoirs absolus sur sa musique, ses conditions de distribution et d'utilisation. Ses fans sont si nombreux qu'elle n'a aucun mal à court-circuiter tous les circuits pour imposer sa manière de leur parler, pour leur faire acheter ses places de concert produites par elle toute seule et pour leur faire écouter sa Taylor version de tous ses albums. Si nombreux, dit-on, qu'elle serait capable de faire basculer les résultats de la prochaine élection américaine. L'autre s'appelle Miley Cyrus. Elle a remporté son premier Grammy en février 2024, après une carrière pourtant déjà très longue, près de 20 ans. Dans la vidéo de sa prestation de victoire, visionnée plus de 20 millions de fois déjà, on reconnaît en elle la toute jeune fille qui interprétait le double rôle très autobiographique de Miley Cyrus et Hannah Montana sur Disney Channel, ado normal le jour et star de la country la nuit. Sur cette vidéo, des Grammys, elle ressemble étrangement à Dolly Parton, la sainte matrone de la country, qui à la ville est sa marraine. Et on aperçoit Taylor Swift qui danse goulûment sur les paroles de Flowers, le titre qui a valu à Miley cette récompense si tardive, et dans lequel elle proclame qu'elle n'a besoin d'aucun homme et se donne de la force en se répétant qu'elle peut s'offrir des fleurs à elle-même. Ces deux jeunes femmes ont trois points communs. D'une part, l'Amérique les a vues grandir, puisqu'elles sont sur le feu des projecteurs depuis qu'elles ont environ 14 ans toutes les deux. L'Amérique les a aussi vues s'émanciper des stéréotypes de jeunes filles parfaites, connaît leurs nombreuses peines de cœur et les a vues donc changer de rôle. Elles sont passées de celui de la jeune fille américaine sage et énergique pour sortir aussi du genre qui les ont toutes les deux portées à leur début, la fameuse country music. Est-ce un hasard que ces deux femmes soient issues de ce genre né il y a pile un siècle dans le sud des États-Unis, formalisé et commercialisé par et pour des Américains blancs et pauvres ? Conservateurs de surcroît, la country a mis du temps à faire de la place aux femmes. Et quand elles émergeaient, il n'était pas rare qu'elles fassent carrière avec ou malgré 5, 6, 8 enfants. Pourtant, peut-être que plus encore que les genres issus des marges et des milieux progressistes, la country a su faire émerger des figures de femmes résilientes, voire invincibles, qui parlent à une frange d'Américains et d'Américaines de plus en plus large, qui sont en train de devenir majoritaires. Et c'est ce récit qu'on vous fait dans la série musicale sur France Culture. La voix de Miley Cyrus dans une session acoustique qui interprète la chanson phare de sa marraine, la matriarche de la country music, Dolly Parton, 78 ans aujourd'hui. Version dans laquelle, si vous connaissez Miley Cyrus avec ses tubes hyper pop, un peu gueulard, type Wrecking Ball, vous pouvez être surprise. Mais on entend vraiment cet ADN de cette chanteuse qui est en fait un pur produit de la country, parce que si Dolly Parton est sa marraine, c'est que Miley Cyrus est née à Nashville, dans le Tennessee, on est en plein sud des États-Unis, d'une mère productrice de disques et manageuse, et d'un père, Billy Ray Cyrus, qui a eu son heure de gloire dans la country music dans les années 90. Elle est d'origine irlandaise, allemande, galloise, écossaise et cherokee. Elle est donc le pur produit de cette culture du sud des États-Unis à qui on doit la naissance de la country, cette old-time music, musique du bon vieux temps, commercialisée et chantée à partir des années 20 par des travailleurs blancs, pauvres, agriculteurs ou ouvriers, et qui représente à la fois les laissés pour compte et les fantômes des pionniers des États-Unis. Lorsqu'elle devient une star de la chaîne Disney à 12 ou 13 ans, en interprétant un rôle assez autobiographique dans la série Hannah Montana, c'est finalement ce qu'elle incarne, une star adolescente de la country qui fait de la musique en famille avec un grand chapeau sur la tête et dont la vie, le jour, se déroule comme celle d'une adolescente typique, la girl next door du sud américain. Cette personnalité très country va subir un sacré coup quand Miley décide de s'émanciper non seulement de la tutelle du père, mais aussi de cette image de jeune fille sage et énergique du sud blanc, pour se raser la tête, proposer des titres hyper pop, voire presque rap, qui parlent de sexe. Et l'Amérique la prend carrément en grippe quand en 2007, elle va twerker sur scène. Elle n'est pas la première évidemment à faire ce mouvement de danse qui vient de la culture africaine, de la Côte d'Ivoire, avant d'être devenu un mouvement très caractéristique de la scène hip-hop. Ce qui fait que ça choque, c'est qu'elle est blanche et qu'elle vient du Tennessee. Elle dégoûte une partie de son public qui se sent aussi trahi par ce geste que par l'abandon dans ses productions musicales de la guitare, du fiddle ou encore du banjo au profit des boîtes à rythme. Alors si aujourd'hui Miley Cyrus triomphe près de 10 ans après cet épisode du twerk, c'est bien parce que les États-Unis entre-temps l'ont vu se débattre, d'abord avec un mariage foireux, rupture, reprise, voir sa maison partir en flammes. Hein. Elle a vécu un grand incendie, Miley Cyrus, très médiatisée, et qu'elle est revenue avec des titres pop plus simple, plus épuré, des textes résilients, dignes de la plus grande tradition de la country. Car finalement, en 2024, la country music, c'est avant tout le récit. Raconter la même histoire finalement que dans les années 20, c'est-à-dire les difficultés de la vie, plus que le fiddle, le violon irlandais, l'harmonica ou le banjo, qui étaient les instruments caractéristiques de ce genre, c'est la capacité à livrer cette espèce de journal intime de l'Amérique moyenne qui survit et marque aujourd'hui encore ce style. Et il est une très jeune autrice-compositrice qui l'a bien compris, elle avait à peine 14 ans, quand l'année où Miley s'émancipe, elle quitte sa Pennsylvanie natale pour s'installer à Nashville, la capitale de la country, et proposer des compositions simples, mais qui racontent des belles histoires, l'histoire que toutes les ados vivent. Elle s'appelle Taylor Swift.
Betty, I won't make assumptions about why you switched to homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on the skateboard when I passed your house, it's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Inez, you can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go straight to hell? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go straight to hell? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. I was walking home on broken cobblestones, just thinking of you, and she pulled up like a figment of my worst intentions. She said, James, get in, let's drive. Those days turned into nights, slept next to her, but I dreamt of you all summer long.
Taylor Swift, guitare acoustique, harmonica, aux Academy Awards de la country, cette fameuse cérémonie où Beyoncé, elle s'était plutôt prise en four lorsqu'elle était venue participer en 2016. C'est pour cela d'ailleurs que Beyoncé avait voulu se venger en consacrant un album entier à ce genre, on en parlait la semaine dernière. Là, Taylor Swift 2020 en majesté, avec cette chanson issue de son album de 2020, très sobrement intitulée Folklore. Vous écoutez une chanson qui s'appelle Betty et qui montre bien les talents de storytelleuse de Taylor Swift, car cette chanson fonctionne avec trois autres chansons de cet album, une chanson qui s'appelle Out et une autre qui s'appelle Cardigan, car Taylor Swift met en scène un triangle amoureux entre trois adolescents, Betty et James, qui en réalité pendant l'été semblent l'avoir trompée, en tout cas avoir vu d'autres filles. Et chacune des trois chansons va raconter l'histoire de ce triangle amoureux estival entre des ados de 17 ans chacun du point de vue de l'un de ces trois personnages. C'est la capacité Taylor Swift à faire ses récits des amours adolescentes, alors qu'à ce stade-là, elle a bien plus que 25 ans, qui émeut beaucoup les Swifties, hein, ses fans, qui analysent les textes de l'autrice-compositrice, et ce depuis ses débuts. Car Taylor Swift, elle est arrivée dans le paysage américain de manière tonitruante. Elle avait 16 ans à peine, avec un album qui s'appelait sobrement Taylor Swift, dans lequel déjà, elle avait des capacités de narration qui étaient assez étonnantes pour son jeune âge. Mélodie simple, mots simples, mais une capacité à raconter ce mal-être, ces questions amoureuses qui vous traversent et vous obsèdent lorsque vous êtes ado. Et Taylor Swift, si ensuite elle réussit à finalement rencontrer un public de plus en plus large, c'est parce qu'elle ne fait absolument pas mystère de qui elle est, des choses qui l'occupent. Les États-Unis vont la voir grandir, vieillir, tomber amoureuse, rompre et retrouver l'intégralité de ce qu'elle a vécu et de ce qu'ils ont vu dans les tabloïds dans ses albums suivants où elle décortique à la fois ce qu'elle a ressenti, elle explique aussi à qui elle en veut. Et c'est cette espèce de dialogue entre cette jeune femme blonde qui leur ressemble et les jeunes Américains qui va garantir son succès, un succès de plus en plus large, mais qu'elle doit quand même à cette installation dans la ville de Nashville, la capitale de la country, et cette capacité à muscler son jeu de storyteller. Taylor Swift, à qui on a fait parfois le reproche de ne pas être assez country, puisqu'elle n'est pas du tout issue de ce sérail, et qui répondait par exemple dans le One Show, on est en 2011, elle est à ses débuts, et elle montre bien que pour elle, il n'y a aucun problème.
It's Taylor Swift.
Vous savez, mes parents ont été un vrai soutien. Quand j'ai commencé à vouloir faire de la musique, ils ne connaissaient absolument rien au milieu. Eux, ils venaient de la finance, on vivait en Pennsylvanie. Ils ne savaient rien, mais ils ont accepté de m'accompagner et de s'installer à Nashville, car ils savaient que c'était là que ça se passait. En plus, ils savent que dans mes textes, tout le monde est susceptible d'être cité. Personne n'est à l'abri. Si tu me connais, tu sais que tu vas finir un jour ou l'autre dans mes chansons. Et vous savez, il y a tant d'artistes country différents aujourd'hui. Le seul point commun, c'est qu'on parle tous de nos vies. On raconte ce qu'on connaît, ce dont on est fier. Aujourd'hui, tous les artistes de la scène country viennent de milieux différents. Donc, il y a bien ceux qui parlent de leur camion pick-up, ceux qui parlent de la vie à la campagne, du whisky qu'ils boivent. Moi, je parle d'amour et de rupture. Quelles que soient vos priorités, c'est ce dont vous parlez qui fait que vous êtes un artiste country.
Way out in Arizona, in a town they call Winona, where the folks you meet all know a thing or two. Lived a lad of great ambition, who had set as his life's mission to excel upon his oogie-de-de-de-doo. And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with the song, the sweet refrain. In the evening in the cactus, he would get a lot of practice on his he was trailing, you would always hear him wailing on his yodel-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-
Then he said, look here, my sonny, you can make a lot of money with the oodity-oodity-oodity-oodity-oodity-oo. And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song this sweet refrain. Then our hero took the dip and packed his rip and took a trip and soon was singing o'er the radio to you. If the Swiss heard what he's earning, green with envy they'd be turning when he soon he met a little maiden who was talent, who was laden, and she fell for him like flowers for the dew. And he wished not to evade her, and he used to serenade her with his yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-yodity-day-
refrain. Da 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 da
On est bien loin de Taylor Swift et pourtant c'est exactement ça, les débuts de la country. Vous écoutiez ici Mary Jane et Caroline de Zurich, premier duo de femmes à se produire dans le Grand Ole Opry, la fameuse grande émission de radio dédiée et ensuite de télévision dédiée à la country qui naît dans les années 20 et qui existe toujours. Ces deux jeunes femmes, elles viennent du Minnesota, elles ont grandi dans une ferme et avec leurs frères et leur père, elles chantent et elles essayent d'imiter les bruits des animaux, de la nature qui les entoure. C'est ça que vous entendiez. On est bien loin de Taylor Swift. Alors que s'est-il passé entre-temps ? Évidemment, à la fondation, en réalité, de cette musique country, qu'on date à un moment très précis, le fondateur s'appelle A.P. Carter et c'est un guitariste dont le jeu de guitare est très influencé d'une part par le jeu des Afro-Américains avec qui il travaille, mais c'est lui qui va, avec sa fameuse famille Carter, formaliser la country en devenir l'une des toutes premières stars. Et si on retient toujours son nom comme le membre fondateur, en tout cas la figure de proue de ce mouvement dans les années 20, on oublie parfois le rôle déterminant que jouent les deux femmes avec lesquelles il s'associe pour devenir la fameuse famille Carter, puisqu'il rencontre deux femmes qui portent à peu près le même nom que lui, Sarah et Mabel, qui sont deux cousines, qui jouent toutes les deux de l'auto-harpe et de la guitare. Mabel, qui va épouser le frère de Carter pour devenir une grande famille musicale avec de nombreux enfants qui vont être initiés à la musique et se produire absolument partout aux États-Unis. Mabel, en fait, participe très largement au succès du groupe, notamment parce qu'elle développe un jeu de guitare très innovant qui, depuis, est devenu, on peut le dire, la base guitaristique de la country. Et pourtant, Mabel est toujours, et pendant assez longtemps, jusqu'à la séparation de la famille Carter, dans l'ombre de A.P. Elle se produira plus tard avec ses filles qu'elle aura elle-même initiées, Hélène, Anita et June, on y reviendra. Mabel Carter, qui restait une femme extrêmement humble, que vous allez entendre ici en jam session avec ses filles et avec l'extraordinaire guitariste de picking, Chet Atkins.
All right, Nita. There, kind of featuring Helen, Chester, and Anita there. They're having a little feud to see who could pick the most, I think. I'm afraid we've about run ourselves out of picking and singing time here for you folks. We'll be back again before too long. Yins try to be around and listen to us then. In the pines, in the pines, where the sun never shines, and shiver when the cold.
You've been listening to radio's famous Carter sisters, Mother Maybelle, Chet Atkins, and yours truly, Joe Slattery. Your announcer will tell you when to look for us again. Thanks a lot for having us in. So long, everybody.
Maybelle Carter remembers how it all began.
Well,
Eh bien, tout a commencé dans ma famille. On était 10 à la maison. Et la plupart d'entre nous jouaient des instruments. Mon frère jouait le banjo, ma mère aussi jouait le banjo. J'avais d'autres frères qui jouaient la guitare. Moi, j'ai commencé au banjo et puis finalement, on m'a offert une guitare. Et je m'y suis mise quand j'avais 13 ans. Puis A.P. Carter est arrivé depuis l'autre côté de la montagne et il a rencontré ma cousine Sarah. Ils se sont mariés quand j'avais 6 ans à peu près. Beaucoup plus tard, j'ai rencontré le frère d'A.P. et nous aussi on s'est mariés. Le 13 mars 1926. Et puis, un jour, A.P. est revenu de Bristol et il avait rencontré quelqu'un qui voulait nous enregistrer. Donc on a tous été à Bristol et on a fait notre premier disque. C'était le 2 août 1927. Et voilà, ça continue depuis toujours.
Maman dit toujours qu'elle ne peut pas s'arrêter de travailler parce qu'elle a peur qu'on arrête de faire de la musique et que la Carter Family disparaisse. Mais on essaye nous-mêmes d'initier nos enfants. Je trouverais ça génial si nous, les filles, on n'arrive plus à continuer et que nos enfants prennent le relais et continuent à perpétuer cette tradition de la famille Carter. J'espère qu'elle ne mourra jamais. En tout cas, elle ne mourra jamais dans mon cœur, car c'est toute ma vie. Depuis que j'ai 4 ans, je chante. J'ai travaillé pendant 2 ans gratuitement et à 6 ans, j'ai dû recevoir un quart de dollar.
All you pretty single girls, and listen to my story. The girl that lives a single life lives a life of glory. Once I wed a handsome man because my heart is lonely. Then one day I lived in flat and super alimony to pay me alimony, to pay me alimony. I had him up in every port in town to pay me. First thing that I said to the judge was, I want alimony. His pocketbook he threw away, he fed on stale bologna. For every time he got a dime, I wanted alimony. To pay me alimony, to pay me alimony. I had him up in every court in town to pay me alimony. That he was slowly sinking. I quickly rushed up to his side to see what he was thinking. In that saddest hour of life, my heart was cold and stony. He lifted up his mournful head and I whispered, alimony! Hooray for alimony! Hooray for alimony! Just get yourself a handsome man and sue for alimony.
Good morning, Judge.
Le génial rire de Rose Maddox qui se produit ici avec ses frères dans une chanson qui s'appelle Pay Me Alimony, paye-moi la pension alimentaire. Avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre, en réalité les femmes sont présentes dans la country, mais en général elles se produisent avec leurs frères, leurs pères, leurs maris, très rarement seules. Elles restent évidemment les représentantes, les voix d'une société extrêmement conservatrice, mais elles arrivent à raconter des choses qui sont évidemment ce que vivent les femmes dans le sud des États-Unis, en l'occurrence le divorce, l'abandon, la difficulté des relations avec les hommes. Rose Maddox, que vous entendez ici, est une figure importante puisqu'elle va devenir ce qu'on appelle la grand-mère du rockabilly. Son rôle est déterminant, mais vous l'entendez, elle se produit toujours avec ses frères de la même manière que Mabel Carter, avant son divorce et avant les années 60, n'a pas le droit de se produire seule. Il y a une figure qui va émerger et qui va un peu changer la donne, elle s'appelle Kitty Wells. Elle aussi commence en étant la voix secondaire du duo de garçons dans lequel se produit son mari. Et c'est finalement en 52 avec une chanson qui s'appelle « It wasn't God who made honky-tonk angels ». C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui a créé les honky-tonky angels, ces femmes à la vie un peu trop libre que la morale réprouvait à l'époque. Une chanson dans laquelle Kitty Wells raconte que c'est parce que les garçons se conduisent mal, que les filles sont obligées, elles aussi, de se conduire moins bien. La chanson va avoir un succès énorme, même si elle est interdite sur certaines radios, puisqu'elle est considérée comme trop vulgaire. Kitty Wells, néanmoins, ouvre une brèche. Beaucoup plus tard, dans les années 60, elle osera des chansons franchement féministes. Écoutez-la.
As I sit here tonight, the jukebox playing the tune about the wild side of life. As I listen to the words you are saying, it brings memories when I was a trustful wife. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. It's a shame that all the blame is on us women. It's not true that only you men feel the same. From the start, most every heart that's ever broken was because there always was a man to blame. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong.
Me semble-t-il, une part de rébellion, entre guillemets, dans le fait que les femmes ont peu à progressivement pris. C'est un mouvement quand même, il faut voir, qui est relativement récent, qui a pris la guerre. Hein. Les femmes, vous parlez de Mabel Carter avant-guerre, mais elle n'avait pas le droit de se produire, véritablement, s'il n'y avait pas son mari, son frère, etc., sur scène avec elle. Hein. Et elle devait quand même tenir un second rôle. C'était pas féministe comme société. Hein. Et donc, après la guerre, il y a d'abord Kitty Wells, hein, avec des thèmes très traditionnels, très famille, patrie, etc., mais c'est une femme, et ça c'est quand même important, une vedette féminine. Vous parlez de Patsy Cline aussi, qui joue un rôle très important dans cette féminisation de la country. Puis ensuite, dans les années 60, on arrive à une autre génération, avec Loretta Lynn, avec Dolly Parton, avec Tammy Wynette, et puis ensuite, donc, Emmylou Harris et d'autres. Et ces femmes apportent, bon, ne sont pas en rupture de style avec le Nashville Sound, certes, pour certaines d'entre elles, en tout cas pour Dolly Parton et Tammy Wynette, mais par contre, elles apportent une évidente féminité dans les thèmes, et des fois ça fait grincer des dents. Par exemple, quand Loretta Lynn enregistre X-Rated ou The Pill ou Tammy Wynette Divorce Me, c'est évidemment des thèmes qui à l'époque font grincer des dents.
You want me and I. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home,
while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. This old maternity dress I've got is going in the garbage. The clothes I'm wearing from now on won't take up so much yardage. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill.
Toutes ces années, je suis restée à la maison pendant que tu t'amusais, et chaque année qui passait, un autre bébé arrivait. Mais maintenant, les choses vont changer. Parce que maintenant, j'ai la pilule. Cette vieille robe de maternité, elle va à la poubelle. Et les mini-skirts que je porte, les mini-jupes, pantalons chauds, petits volants fantaisie. Oui, je rattrape toutes ces années. Loretta Lynn, The Pill, la pilule, qui est une chanson qui, évidemment, va beaucoup frapper la communauté country, parce qu'elle adresse vraiment cette question à un âge où la plupart des chanteuses que vous avez entendues ici sont elles-mêmes issues de fratries de 10-12 enfants, ont parfois elles-mêmes 56 enfants. C'est le cas de Loretta Lynn, qui avait déjà eu 6 enfants à 17 ans. Ce n'est pas parce qu'elle produit ce genre de chanson qu'elle se revendique féministe. C'est tout le paradoxe et en même temps le grand intérêt de ces chansons de la country qui ont vraiment pour but de s'adresser à leur auditoire, à faire sien les problèmes qu'elles rencontrent, les chanteuses et les auditrices. Loretta Lynn, vous allez l'entendre dans une émission française, Bilan pour le futur de 1976, n'est absolument pas féministe pour autant.
Eh bien, je me suis mariée très jeune et à l'âge de 17 ans, j'avais déjà 4 enfants. Aujourd'hui, j'en ai 6. Si j'avais connu la pilule à cet âge-là, si j'avais été au courant, vous savez, j'étais encore très naïve quand je me suis mariée. Au fond, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. J'étais vraiment très très jeune. Mais j'aurais pris la pilule et planifié la naissance de mes enfants. Oui, je crois que j'aurais planifié ma famille.
Que pensez-vous du MLF, de tous les mouvements féministes? Vous êtes pour ou contre?
Moi, je crois qu'un homme doit être le maître à la maison. Les femmes ont des droits dans le ménage, mais je crois qu'une femme devrait toujours consulter son mari avant d'entreprendre quoi que ce soit.
En somme, vous êtes contre les femmes qui revendiquent pour elles des droits égaux et notamment le droit de faire tout ce que font les hommes.
Exactement. Si les femmes ont ces idées-là dans la tête, alors moi je dis qu'elles doivent partir à la guerre. Qu'elles partent avec les soldats à 18 ans. Si elles se prennent pour les hommes, qu'elles se battent comme les hommes.
Loretta Lynn, inimitable avec ses 6 enfants, son droit à la pilule qu'elle chérit, mais évidemment un rapport absolument pas féministe. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'industrie à Nashville. Chaque femme qui est signée, si elle n'arrive pas elle-même déjà flanquée d'un mari, d'un frère ou d'un père, va très vite basculer sous la coupe d'un manager qui décide quelle chanson elle peut et doit chanter. C'est le cas d'ailleurs pour une toute jeune femme qui débarque dans le monde de la country, mais qui, elle, va tout changer et proclamer son indépendance comme aucune autre avant elle. Elle s'appelle
Pretty Miss Dolly Parton. Come on.
Her voice was. La voix de Dolly était vraiment frappante. Je pense que ce que les gens aiment dans sa voix, c'est que sa voix sonne exactement comme l'endroit d'où elle vient. C'est exactement comme ça que sonne la voix du Tennessee. J'ai grandi dans la montagne, on chantait beaucoup de gospel, du bluegrass, et juste de la country pure. On s'asseyait, on prenait la guitare, le banjo, de l'auto-harpe. On chantait de la folk. La famille de ma mère chantait beaucoup. Ils avaient toujours des instruments sous la main. On chantait pour les funérailles, pour les mariages.
«
sir. Hey, hey, yeah. Do you need another mule skinner? Down on your newbud run. Hey, hey, yeah. Doodle.
Extraordinaire Dolly Parton qui fait une relecture assez géniale et énergétique en 1970 du Mule Skinner Blues. C'est l'un des tout premiers grands tubes de la country. Immense chanson phare du répertoire de Jimmy Rogers, le fondateur à la fois maudit et adoré de la country. C'est avec ce son-là que Dolly Parton, qui est en fait présente depuis les années 60, arrive véritablement à établir son pouvoir et notamment à s'émanciper d'un manager qui était aussi lui aussi chanteur de country, de son producteur qui la verrouillait un petit peu. Dolly Parton qui va changer toutes les règles du jeu. D'une part parce qu'elle se marie à un homme quasiment inconnu, qui va rester vivre à la ferme, qu'elle refusera d'avoir des enfants. Et c'est vraiment sa première et la seule grande star de la country. Elle cultive une image extrêmement glamour, avec des cheveux blonds, des seins refaits, qui fonctionne un peu comme une armure pour une jeune fille qui dit qu'elle a toujours été très mal dans sa peau, mais qui se moque assez vite de ceux qui la traitent de blonde idiote. Je ne suis absolument pas idiote. Et d'ailleurs, je ne suis même pas blonde, a-t-elle coutume de répondre. Elle a un vrai succès et un vrai talent de compositrice et d'autrice-compositrice. Elle commence, c'est l'une des premières à amorcer une vraie modification dans les chansons qu'elle propose. Elle va aller de plus en plus vers des ballades extrêmement bien écrites. Just Because I'm a Woman, Ne me jette pas la pierre juste parce que je suis une femme, est un de ses premiers succès qui va de la country vers la pop, vers le blues, vers le rock. Et elle va triompher avec une ballade qu'on connaît bien plus aujourd'hui dans la voix de Whitney Houston, mais dont on ne doit pas oublier qu'elle est la première autrice et interprète, I Will Always Love You, qui est tout à fait à l'image de ce qu'elle défend et de ce qu'elle raconte dans ses chansons d'amour, même dans Jolene, son titre phare, qui est donc adressé à la femme qui lui a piqué son mari. Elle n'est jamais dans la vengeance, dans la jalousie, dans la colère. Elle est en général dans cette adresse d'une âme à une autre, ne monte jamais les femmes les unes contre les autres, et raconte son amour avec une douceur, un engouement qui va séduire absolument tout le monde.
If I
stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way, and I will always love you. I will always love you. Bittersweet memory. That's all I am taking with me. Goodbye. Please don't cry. We both know that I'm not what you need. I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.
Extraordinaire Dolly Parton dans I Will Always Love You, qui réussit un tour de force absolument incroyable. Ouvrir son répertoire et son public avec ses ballades qui tirent vers la pop, parfois vers le rock, sans jamais perdre son identité country, sans jamais s'éloigner de ce Nashville sound qui est lui-même déjà un son très formaté, mais qui gardera cette image de sainte matrone de la country, alors que dans les années 70-80, de plus en plus d'artistes vont se popiser, ce qui pose évidemment plein de problèmes. Qu'est-ce qu'est la country? Et c'est comme ça sans doute qu'on arrive à des sons comme ceux de Taylor Swift aujourd'hui. Cette question du Nashville Sound, elle a toujours animé les débats de fans de country. Qu'est-ce que vraiment la country? Une réponse avec Gérard Herzhaft, que vous avez déjà entendu, grand musicologue spécialiste de la country, interviewé sur France Culture dans l'émission Décibel en 2001.
Les majors comme RCA, comme Decca, etc., qui s'impliquent dans la country music, vont tous avoir des studios avec des producteurs, des découvreurs de talents, etc. Il va y avoir une espèce d'establishment qui va se créer comme ça, de façon informelle au début et de plus en plus formelle, qui tiendra la musique et qui en plus consciemment donnera des lignes d'évolution et des barrières à cette musique. C'est ainsi que progressivement va se créer ce qu'on appellera à partir des années 50 le Nashville Sound, c'est-à-dire cette espèce de son sophistiqué, urbain, bien sûr avec un terreau rural, country, mais immanquablement pop quand même. Hein. Et donc c'est resté un peu encore aujourd'hui quand je vois beaucoup de gens qui aiment la country rugueuse, terrienne, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils disent « Ah mais c'est du Nashville Sound », même si ça n'a pas été forcément fait à Nashville.
June Carter Cash.
Thank you. I really appreciate that, and I have to say just a little something, Johnny, if it's okay.
Bonjour, Jimmy. Mais je voudrais juste dire quelque chose avant de chanter cette chanson.
He had a nice hit on it a few years ago, but there's a new record on it by Blondie.
La chanson que je vais chanter a été reprise par bien des gens, y compris par Blondie récemment. Mais j'ai envie de la chanter pour vous l'entendiez comme on la jouait avant.
Avec l'aide de plein d'amis, c'est moi qui ai écrit cette chanson et j'aimerais que vous l'entendiez comme on voulait la chanter à l'époque.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Yes, it burns. Burns, burns, the ring of fire, the ring of fire.
June Carter qui chante ici The Ring of Fire, une chanson popularisée, comme elle le disait, dans ce micro par son mari, Johnny Cash, cette incroyable figure sur laquelle on va revenir, mais qui est évidemment à la croisée de la culture country, de la culture folk. Il épouse June Carter, qui est donc vraiment l'héritière de la famille Carter Country, première version, version vraiment musique des champs. Beaucoup des admirateurs de Johnny Cash n'ont pas aimé June Carter, son côté conservateur, sa manière de parler de Dieu en permanence. On oublie que June Carter a coécrit cette chanson et qu'elle est elle-même une autrice-compositrice extrêmement importante. Elle fait partie d'une des seules de la famille Carter à vraiment réussir à se créer sa propre carrière. Une femme extrêmement puissante qui survit évidemment à son mari et qui produira énormément et qui ouvre à la fois la voie à d'autres femmes. Vous l'avez entendu, hein, elle revendiquait ici son droit à rechanter cette chanson qui avait été reprise entre-temps par la chanteuse de funk des années 80, Blondie. Elle a chanté à la façon country, la vraie façon country, car de plus en plus, on l'a entendu, le Nashville Sound produit une country de plus en plus pop, qui aboutit sans doute à des versions qui aujourd'hui sont incarnées par Taylor Swift ou Miley Cyrus. D'autres figures de femmes, néanmoins, dans cette culture croisée entre country et pop, vont émerger dans les années 80 et 90. Entre June Carter, Dolly Parton, Loretta Lynn, la country a en réalité su créer des figures de femmes fortes qui vont marquer beaucoup.
My first obsession with country music was in the 90s.
Moi, je n'écoutais pas de country quand j'étais petite, mais dans les années 90, j'ai découvert Reba. J'adore les femmes fortes qui racontent des histoires. Et je pense que dans la musique country, spécialement dans les années 80 et 90, il y avait ça. Les seules femmes superstars qui racontaient des choses réelles, c'était dans la country.
Your love is gone.
Autre figure vétérane de la country music que vous écoutez ici, Emily Harris, une jeune femme qui a grandi dans l'Amérique de l'après-guerre. Son père était un pilote mort au combat. Tombée amoureuse de la country music, elle écrit à un chanteur pour essayer de voir si elle peut chanter, elle qui est miss de concours de beauté à l'époque. Il est persuadé, il est conquis par sa voix. Mais elle écrit « Comment pourrais-je chanter cette musique après avoir vécu une vie protégée ?»« Ne vous en faites pas, la vie vous rattrapera et vous souffrirez, vous n'y couperez pas. » Lui répond Pete Seeger, ce chanteur auquel elle s'était adressée. Et de facto, la vie d'Emily Harris, évidemment, comme celle de tout un chacun, connaîtra des moments de mou. Et c'est ce qu'elle raconte dans cette carrière qui est sans doute l'une des plus riches et les plus importantes de la country music aujourd'hui. Aux côtés de Dolly Parton, qui n'a pas dit son dernier mot, puisqu'à 72 ans, 78 ans, elle est toujours sur scène. On a essayé ici de vous restituer cette espèce de fil qui a permis aux femmes d'émerger dans la country music et qui leur ont permis aussi de la transformer à mesure qu'elle se transformait elle-même, n'hésitant pas, soit dans le cas de June Carter, à maintenir une tradition très vivante, mais aussi parfois à franchir les barrières, comme Dolly Parton l'a fait ou comme le fait régulièrement Emmylou Harris, qui elle a fait fi des problématiques raciales qui animent cette musique, en chantant beaucoup aussi de rhythm and blues, de musique venue de la culture du sud des plantations. Dolly Parton qui, quand elle le peut, n'hésite pas toujours à coopter sa jeune protégée Miley Cyrus. On avait envie de se quitter avec cette version de Wrecking Ball, le fameux tube hip-hop de Miley, sur lequel elle invite sa marraine. I came in like a wrecking ball, je suis venue dans ta vie comme un boulet de canon. Ça fonctionne très bien aussi pour Dolly Parton, et pourquoi pas, c'est assez country.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky and now you're not coming down.
L'efficacité de Miley Cyrus. Alors, évidemment, on est à la lisière de la pop et de la country. Mais ça fonctionne toujours très bien. Merci beaucoup à Louise André qui a réalisé cette émission et cette série sur la country. On vous invite à retrouver notre premier épisode consacré à l'album de Beyoncé, Cowboy Carter. Sur évidemment l'excellente application de Radio France en podcast. À la technique aujourd'hui, c'était Ruben Kermazine. Lou Quevauvier est l'attaché de production de la série musicale. Un clin d'œil à notre autre réalisateur chéri, Colin Gruel, qui a eu l'idée de cette série. À la semaine prochaine.
Just walked away. I will always love you.